Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux, seconde partie, Système des facultés des animaux. Chapitre 7. Comment l'homme acquiert la connaissance des principes de la morale. L'expérience ne permet pas aux hommes d'ignorer combien ils se nuiraient si chacun, voulant s'occuper de son bonheur aux dépens de celui des autres, pensait que toute action est suffisamment bonne dès qu'elle procure un bien physique à celui qui agit. Plus ils réfléchissent sur leurs besoins, sur leurs plaisirs, sur leurs peines et sur toutes les circonstances par où ils passent, plus ils sentent combien il leur est nécessaire de se donner des secours mutuels. Ils s'engagent donc réciproquement, ils conviennent de ce qui sera permis ou défendu, et leurs conventions sont autant de lois auxquelles les actions doivent être subordonnées. C'est là que commence la moralité. Dans ces conventions, les hommes ne croiraient voir que leur ouvrage, s'ils n'étaient pas capables de s'élever jusqu'à la divinité, mais ils reconnaissent bientôt leur législateur dans cet être suprême qui, disposant de tout, est le seul dispensateur des biens et des maux. Si c'est par lui qu'ils existent et qu'ils se conservent, ils voient que c'est à lui qu'ils obéissent lorsqu'ils se donnent des lois. Ils les trouvent, pour ainsi dire, écrites dans leur nature. En effet, ils nous forment pour la société, ils nous donnent toutes les facultés nécessaires pour découvrir les devoirs du citoyen. Il veut donc que nous remplissions ses devoirs. Certainement, il ne pouvait pas manifester sa volonté d'une manière plus sensible. Les lois que la raison nous prescrit sont donc des lois que Dieu nous impose lui-même, et c'est ici que s'achève la moralité des actions. Il y a donc une loi naturelle, c'est-à-dire une loi qui a son fondement dans la volonté de Dieu et que nous découvrons par le seul usage de nos facultés. Il n'est même point d'homme qui ignore absolument cette loi, car nous ne saurions former une société, quelque imparfaite qu'elle soit, qu'aussitôt nous ne nous obligions les uns à l'égard des autres. S'il en est qui veulent la méconnaître, ils sont en guerre avec toute la nature, ils sont mal avec eux-mêmes, et cet état violent prouve la vérité de la loi qu'ils rejettent et l'abus qu'ils font de leur raison. Il ne faut pas confondre les moyens que nous avons pour découvrir cette loi avec le principe qui en fait toute la force. Nos facultés sont les moyens pour la connaître. Dieu est le seul principe d'où elle émane. Elle était en lui avant qu'il créât l'homme. C'est elle qu'il a consultée lorsqu'il nous a formés et c'est à elle qu'il a voulu nous assujettir. Ces principes étant établis, nous sommes capables de mérite ou de démérite envers Dieu même. Il est de sa justice de nous punir ou de nous récompenser. Mais ce n'est pas dans ce monde que les biens et les maux sont proportionnés au mérite ou au démérite. Il y a donc une autre vie où le juste sera récompensé, où le méchant sera puni, et notre âme est immortelle. Cependant, si nous ne considérons que sa nature, elle peut cesser d'être. Celui qui l'a créée peut la laisser rentrer dans le néant. Elle ne continuera donc d'exister que parce que Dieu est juste. Mais par là, l'immortalité lui est aussi assurée que si elle était une suite de son essence. Il n'y a point d'obligation pour des êtres qui sont absolument dans l'impuissance de connaître des lois. Dieu, ne leur accordant aucun moyen pour se faire des idées du juste et de l'injuste, démontre qu'il n'exige rien d'eux, comme il fait voir tout ce qu'il commande à l'homme lorsqu'il le doue des facultés qui doit l'élever à ses connaissances. Rien n'est donc ordonné aux bêtes, rien ne leur est défendu, elles n'ont de règles que la force. Incapables de mérite et de démérite, elles n'ont aucun droit sur la justice divine. Leur âme est donc mortelle. Cependant, cette âme n'est pas matérielle, et on conclura sans doute que la dissolution du corps n'entraîne pas son anéantissement. En effet, ces deux substances peuvent exister l'une sans l'autre, leur dépendance mutuelle n'a lieu que parce que Dieu le veut et qu'autant qu'il le veut. Mais l'immortalité n'est naturelle à aucune des deux, et si Dieu ne l'accorde pas à l'âme des bêtes, c'est uniquement parce qu'il ne la lui doit pas. Les bêtes souffrent, dira-t-on, or comment concilier avec la justice divine les peines auxquelles elles sont condamnées? Je réponds que ces peines leur sont en général aussi nécessaires que les plaisirs dont elles jouissent. C'était le seul moyen de les avertir de ce qu'elles ont à fuir. Si elles éprouvent quelquefois des tourments qui font leur malheur, sans contribuer à leur conservation, c'est qu'il faut qu'elles finissent et que ces tourments sont d'ailleurs une suite des lois physiques que Dieu a jugé à propos d'établir et qu'il ne doit pas changer pour elles. Je ne vois donc pas que, pour justifier la Providence, il soit nécessaire de supposer, avec Malebranche, que les bêtes sont de purs automates. Si nous connaissions les ressorts de la nature, nous découvririons la raison des effets que nous avons le plus de peine à comprendre. Notre ignorance, à cet égard, n'autorise pas à recourir à des systèmes imaginaires. Il serait bien plus sage aux philosophes de s'en reposer sur Dieu et sur sa justice. Concluons que, quoique l'âme des bêtes soit simple comme celle de l'homme, et qu'à cet égard il n'y ait aucune différence entre l'une et l'autre, les facultés que nous avons en partage, et la fin à laquelle Dieu nous destine, démontrent que si nous pouvions pénétrer dans la nature de ces deux substances, nous verrions qu'elles diffèrent infiniment. Notre âme n'est donc pas de la même nature que celle des bêtes. Les principes que nous avons exposés dans ce chapitre et dans le précédent sont les fondements de la morale et de la religion naturelle. La raison, en les découvrant, prépare aux vérités dont la révélation peut seule nous instruire, et elle fait voir que la vraie philosophie ne saurait être contraire à la foi.